Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour une nouvelle session de 90 minutes matin sur CNews avec l'actualité bien sûr et les débats avec nos invités qui nous ont rejoints. Thomas Carpellini, bonjour, soyez le bienvenu. Ludovic de Villel, bonjour. À vos côtés, Naïm Amfadel, bonjour. Et avec nous, Gauthier Lebret qui joue les prolongations, journaliste politique de CNews.
Bonjour Lionel.
Il y a depuis ce matin, mais on a besoin de vos lumières. C'est pour ça que vous êtes là, évidemment. Un point d'abord sur l'actualité avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
Bonjour Lionel, il n'y aura pas de Grand Prix de France en 2023, annonce du patron de la F1. De plus en plus de concurrents se sont ajoutés ces dernières années avec par exemple des Grands Prix en Arabie Saoudite ou à Miami, si bien que plusieurs courses historiques sont menacées pour la saison prochaine. La Belgique et Monaco sont également menacées. La quasi-totalité des dessertes de bus scolaires seront assurées à la rentrée, c'est ce que l'on a appris auprès du cabinet du ministre délégué au transport. Chaque année, plus d'un million d'élèves rejoignent leur école, collège ou lycée grâce à un bus scolaire. Et puis 5 jours après la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne, les patients instables, à risque ou nécessitant une surveillance vont être transférés vers d'autres établissements. Les nourrissons hospitalisés en réanimation et en soins intensifs vont également être transférés. En revanche, les consultations, les imageries ou encore les accouchements restent assurés.
Les débats qui commencent maintenant dans 90 minutes matin avec nos invités. Emmanuel Macron qui s'envole aujourd'hui pour une visite officielle de 3 jours en Algérie, officiellement tournée vers la jeunesse. Il doit atterrir à Alger à 15h. D'autres sujets, beaucoup plus sensibles, seront sans doute à l'ordre du jour. On fait le point avec Jeanne Cancard.
Sa dernière visite en Algérie remonte au début de son premier mandat en 2017. Rapidement, lors de sa déambulation, Emmanuel Macron avait été interpellé sur un passé franco-algérien qui ne passe pas.
On a cette histoire entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge ?
J'ai 26.
Mais vous avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça ? Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir.
C'est justement vers l'avenir et la jeunesse que le président français veut tourner cette nouvelle visite. Après son entretien en tête-à-tête prévu aujourd'hui avec le président Tebboune, Emmanuel Macron rencontrera de jeunes entrepreneurs demain à Alger. L'objectif de ce déplacement, tenter de refonder une relation abîmée par plusieurs mois de brouille mémorielle, sans pour autant mettre ce sujet au cœur de sa visite. Autre thème que l'Élysée ne souhaite pas au centre des discussions, mais qui sera inévitable, celui du gaz. Les Européens, pressés de réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Les deux présidents devraient aussi évoquer l'épineux sujet des laissez-passer consulaires, indispensables pour expulser des clandestins algériens du territoire français. À l'automne, pour faire pression et obtenir davantage de laissez-passer, Paris avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie. Avec cette visite, Emmanuel Macron va donc tenter de sonner la fin des hostilités.
Gauthier Lebret, est-ce un voyage sur fond de relations diplomatiques et mémorielles ou un voyage tout simplement purement économique, car on rappelle que l'Algérie est un très gros producteur de gaz.
C'est un mélange des deux, Lionel, mais évidemment, le but de cette visite, alors qu'on parle de pénurie énergétique, c'est le gaz. Alors, on passe après les Italiens et les Allemands qui ont déjà signé un contrat, donc il faut voir ce qui reste dans les cuves algériennes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas assumé par l'exécutif. Hier, la question a été posée à Olivier Véran lors du point presse post-conseil des ministres. Il avait du mal à répondre clairement, oui, ça va parler du gaz. C'est tellement pas assumé qu'il y a quand même 7 ministres qui accompagnent Emmanuel Macron. Il n'y a pas Agnès Pannier-Runacher, pourtant en charge de la transition énergétique. Donc effectivement, ça va parler mémoire, parce que je vous rappelle aussi qu'il y avait eu des critiques d'Emmanuel Macron, qui dans un premier temps, quand il était candidat, avait dit que c'était un crime contre l'humanité, la colonisation, puis ensuite avait accusé les autorités algériennes de faire de la rente mémorielle. Et il y a un dernier point, c'est évidemment celui des obligations de quitter le territoire français, puisque vous le savez, en 2021, Emmanuel Macron avait menacé de baisser de 50% les visas si l'Algérie ne délivrait pas les laissez-passer consulaires qui permettent d'expulser les étrangers en situation irrégulière. J'avais pris les chiffres entre janvier Et juillet 2021, il y avait 7700 obligations de quitter le territoire demandées par la justice française. Et les Algériens n'avaient donné que 31 laissez-passer pour 22 expulsions effectives. L'Élysée a communiqué sur un seul chiffre, là, 300 laissez-passer consulaires depuis mars dernier. Et ça sera évidemment compliqué de demander dans le même temps du gaz et des laissez-passer consulaires, alors que pour le moment, le rapport de force pense du côté eh bien, d'Alger.
Sur, c'est ça, Ludovic de Villèle, Emmanuel Macron marche peut-être un peu sur des œufs, car il y a en effet le poids de l'histoire, mais il y a aussi cette démarche presque quémandée du gaz, puisque dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, on le sait, il y a une véritable pénurie, donc il y a peut-être un accord économique à trouver, mais tout cela en filigrane avec le fameux poids de l'histoire.
Oui, les relations avec l'Algérie, pour des raisons que nous connaissons tous, sont des relations conflictuelles, et le moins qu'on puisse dire, c'est que là-dessus, Emmanuel Macron n'a pas forcément une attitude qui défende les intérêts de la France et surtout son histoire. On a passé notre temps depuis 5 ans à faire œuvre de repentance, comme là. Vous l'avez rappelé, M. Lebray, en 2017, il avait un discours, en 2021, il en a eu un autre. Voilà, c'est jamais le même discours, c'est le en même temps. Ce que je constate pour ce voyage, c'est que l'Europe n'est pas là, donc nous agissons seuls. C'est encore, à mon avis, un échec européen pour le Covid. Ou la Covid, nous avons réussi, l'Europe, à nous mobiliser pour permettre des moyens sanitaires pour nous protéger de ce virus. Et là, pour l'affaire du gaz, manifestement, nous sommes tout seuls. Et dernier point, il y a un sujet qui concerne les Français tous les jours, c'est l'insécurité et le rapport avec l'immigration. Manifestement, on n'entreviendra rien parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir du gaz et plus de laisser passer. Donc sur ce côté-là, ça va, je pense, être un échec retentissant.
Vous avez prononcé la Covid. En effet, j'en profite pour dire que Haïm Korsia, le grand rabbin de France, qui devait aller en Algérie, ne part plus. Il devait faire partie de ce voyage officiel d'Emmanuel Macron. Il a été testé positif à la Covid, donc c'était la première fois qu'il devait se rendre en Algérie, le pays où sont nés ses grands-parents. Alors c'est vrai qu'il y a eu sur les réseaux sociaux des messages antisémites qui ont visé le grand rabbin de France. Le leader des frères musulmans en Algérie aussi, Abderrazak Macri, avait dénoncé cette visite. C'est, que voulez-vous, c'est le destin, la Covid, Naïma Mfadel?
Oui, écoutez, la Covid, j'ai envie de vous dire la Covid à Bodo, quoi. Excusez-moi, mais en tout cas, c'est scandaleux. C'est scandaleux ce qui s'est passé par rapport à Haïm Korsia, ce rabbin qui est... Il faut rappeler que l'Algérie, il y avait des Algériens de confession juive. Donc ils ne sont pas des gens qui ont tout à coup été en Algérie et puis qui sont repartis. Donc ils faisaient partie de la composante du peuple algérien. Donc c'est scandaleux, la réaction de... Bon, il faut les citer, hein, c'est les frères musulmans qui ont effectivement réagi à la venue du rabbin, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux et on voit bien que l'Algérie a aussi du mal à renouer avec sa composante juive. Et puis aussi, vous savez, sur cette paix, il faut être deux pour faire la paix. Et quand le président Macron parlait d'être prisonnier du passé, je pense que les deux peuples, en fait, sont prisonniers du passé. La France est prisonnière de ce passé et l'Algérie est prisonnière de ce passé. Et dans cette démarche de paix, il faut vraiment qu'il y ait un regard croisé sur les exactions qui ont été commises de part et d'autre. Il faut aussi qu'on puisse aussi... Alors, la France s'est beaucoup excusée, mais il faut peut-être attendre de l'Algérie qu'elle s'excuse vis-à-vis des harkis, qui ont beaucoup souffert, qui ont été massacrés. Il faut aussi qu'elle s'excuse par rapport aux pieds noirs, qui ont tout perdu. Des civils ont été tués. Et il faut qu'elle s'excuse aussi par rapport aux juifs d'Algérie. Donc, il n'y a que comme ça qu'on pourra faire la paix. Donc, à un moment, la paix des braves, elle suppose que chacun puisse faire un pas vers l'autre et avec la volonté d'une réelle paix sans tabou.
Thomas Carpellini, ça ne passe régler malheureusement pendant ce voyage en 3 jours. Je crois que la mission principale pour Emmanuel Macron, qui a revêtu son costume de VRP, c'est de récupérer du gaz et effectivement trouver des accords économiques. Mais en effet, il y a aussi ces relations historiques entre la France et l'Algérie.
Politiquement, déjà, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit, si on met en parallèle ce voyage avec les déclarations d'Emmanuel Macron à la fin de l'été, c'est qu'on voit vraiment qu'Emmanuel Macron, à défaut d'un costume de VRP, veut mettre son costume de responsable en chef des relations internationales de la France. C'est-à-dire qu'actuellement, dès qu'on l'entend, c'est pour parler international, c'est pour parler diplomatie, c'est pour parler géopolitique. Et finalement, ce voyage en Algérie s'ancre dans une logique d'être au-dessus de la mêlée, d'être au-dessus du jeu politique et de s'intéresser qu'aux grandes questions. En l'espèce, la question de la géopolitique avec l'Algérie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est moi, j'entends un débat, un échange, une volonté. Sauf qu'il faut voir ce que les uns proposent et ce que les autres proposent. On sait que les Français, la France, a un besoin en gaz et a un gros problème avec ses mineurs isolés, avec sa politique migratoire vis-à-vis de l'Algérie. Mais face à nous, Que demande l'Algérie? On ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut récupérer ses mineurs isolés? À mon avis, non. Est-ce qu'elle veut vendre son gaz? Oui, mais à quel prix? Et surtout, à qui? Donc finalement, j'ai peur d'une forme d'asymétrie dans cet échange, dans cette relation, dans ce voyage, entre une France qui viendrait remplie de bons sentiments et surtout remplie d'intérêts, face à une Algérie qui pourrait un petit peu se cacher dans le bois et attendre que le petit chaperon rouge arrive pour le dévorer tout cru. Donc évidemment, moi j'espère que Emmanuel Macron va amener plein de cadeaux de Noël dans sa hotte pour son retour en France, mais j'ai peur que finalement ce voyage soit dans la continuité de tous les autres voyages en Algérie, c'est-à-dire de grandes formules, de grands mots, et finalement, au prochain voyage, qu'on continue à dire « Attention, il y a une relation particulière entre la France et l'Algérie, et le voyage présidentiel n'a rien changé. »
Gauthier Le Bret, c'est un voyage dans lequel Emmanuel Macron n'a pas la main.
Non, bah, c'est ce qu'on disait, le rapport de force s'est inversé, mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites. On dirait depuis quelques mois un président en cohabitation qui ne gère plus que les affaires internationales. Grande tournée en Afrique juste avant l'été. Évidemment, les affaires avec la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, avec cette tournée en Algérie, et on le sent bien en termes de politique intérieure, on l'a vu hier lors de sa prise de parole avant le Conseil des ministres, il y a une cruelle difficulté à fixer un cap clair. On dit tout et son contraire, tout et son contraire. On est pessimiste le matin, optimiste le soir. On dit qu'on va manquer d'électricité ou du moins d'énergie le matin. Ensuite, après, on fait dire par son porte-parole du gouvernement exactement l'inverse. Donc, les Français et les observateurs n'y comprennent plus rien. Et on sent bien qu'il est effectivement plus intéressé par les questions extérieures que par, pour le moment, la politique intérieure. À part la réforme des retraites et l'assurance chômage, on a du mal à voir de quoi on parle en ce moment.
Alors, ces contrastes, effectivement, ces dichotomies, on va en parler dans quelques instants. J'aimerais juste, puisque vous étiez en train de dire, Thomas Carpellini, que veulent véritablement les Algériens? On leur a posé la question. Les Algériens, on les écoute.
Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que cette visite porte sur les intérêts personnels de la France. Nous, nous n'y gagnerons rien.
Je souhaite la bienvenue à Emmanuel Macron. S'il veut venir à Alger et moi, je vais vivre en Europe à sa place, il vient vivre chez moi, dans ma maison. Et moi, j'irai vivre là-bas.
Concernant la visite du président français Macron, c'est une visite d'État entre deux présidents. En tant que citoyen, je ne m'attends pas à grand-chose ni à rien de nouveau portant sur les intérêts de l'Algérie.
Voilà, même les Algériens, Ludovic de Villèle, n'attendent pas grand-chose apparemment de cette visite, à part proposer peut-être un appartement, un échange d'appartements, comme ça se fait pendant les vacances parfois entre Emmanuel Macron et cet Algérien. Voilà, exactement, une très belle proposition du Airbnb, mais à part cela...
Je crains que finalement, ces jeunes quand on interroge dans la rue disent la même chose que les jeunes à Paris. Hein. Qu'attendons-nous? Vous l'avez rappelé. Et puis, c'est toujours mieux chez le voisin. Alors, je ne sais pas si les Français disent que c'est mieux en Algérie, mais je ne suis pas surpris finalement de ces réactions, et surtout que voilà, les vrais sujets de la part de ces jeunes, visiblement, ne seront pas abordés. Et finalement, on n'entend rien, vous l'avez rappelé, un voyage supplémentaire avec un résultat très, très décevant.
Nous, on attend quand même du gaz. Eux n'attendent strictement rien, mais nous, on attend du gaz. Donc, les seuls qui attendent quelque chose, c'est la France, c'est nous.
C'est la France. Donc, pas forcément en position de force. Pour conclure sur ce sujet,
même ce qui est
Thomas Carpellini.
C'est que quand il y a des échanges entre la France et l'Algérie, on s'attend toujours à ce qu'il y ait une réciprocité et une égalité. Chose qu'on ne réclame jamais quand Emmanuel Macron va en Inde ou au Pakistan ou aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays. Il est peut-être temps également qu'au point de vue de l'approche géopolitique, on arrête de vouloir faire un partout, égalité, balle au centre, et qu'Emmanuel Macron décide farouchement de défendre les intérêts que des Français. Après tout, qu'est-ce qu'il en a à faire en tant que président de la France de l'intérêt des autres habitants, des autres pays, des autres États? C'est le président des Français, mais c'est si pas le président du monde.
Mais si vous n'entretenez pas des bonnes relations avec l'Algérie, après c'est très compliqué de leur demander du gaz.
Mais ça fait 30 ans qu'on essaie d'avoir des bonnes relations avec eux en faisant des pas vers eux, on n'arrive pas à voir.
Et même sur la politique migratoire aussi, en effet.
Ça fait 60 ans aujourd'hui. Hein,
en plus.
Que la guerre est terminée. Simplement, sincèrement, je crois qu'on n'a pas fait la paix et qu'il y a encore trop de rancœur. Et vous savez, c'est toujours pareil, s'il y en a un qui fait un pas vers l'autre et que l'autre ne fait pas un pas, on garde ses rancœurs et on n'en finit plus. Et aujourd'hui, l'Algérie s'est construite quand même sur cette colonisation, sur les exactions de la France, etc. Et je crois que vraiment le peuple, elle a, toute cette jeunesse a envie de tourner la page. Et justement, elle a envie d'un avenir avec la France, mais d'un avenir commun et d'un devenir ensemble, mais dans une égalité effectivement, mais peut-être aussi économique, en termes de perspective, etc. Mais malheureusement, vous avez toute ces militaires, ce gouvernement qui les maintient dans une espèce de pression qui veut toujours qu'ils soient attachés à ce passé.
Tout petit mot de conclusion, Thomas Villèle.
À ce propos, effectivement, là, aujourd'hui, le pouvoir maintient cette idée-là que la France, c'est les anciens colonialiste. Mais il y a un deuxième aspect, c'est est-ce que la France offre encore un avenir aux jeunes Algériens? Là aussi, il faut se poser la question. Quel pourrait être l'intérêt, à part de dire, je vais aller dans l'appartement de M. Macron, ça c'est une illustration, mais est-ce que la France attire encore toujours ces pays d'Afrique du Nord? La question, on peut se poser.
Avant de partir pour l'Algérie, en tout cas, Emmanuel Macron a été invité à réagir aux résultats d'une enquête, Le Cœur des Français 2022, qui a été réalisée par Harris Interactive pour Challenge, qui est publié aujourd'hui. Les questions posées portaient sur l'état d'esprit des Français, les préoccupations, les défis du temps. Il semble que le président soit un peu plus optimiste qu'hier matin en ouverture du Conseil des ministres. Ça ne vous a pas échappé. On va en parler ensemble, mais là aussi, il y a un contraste très intéressant. Voilà pourquoi je vous propose d'écouter ou de réécouter cet extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron au début du Conseil des ministres au sujet de la fin de l'abondance.
Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs.
Gauthier Lebret, ce qu'on peut expliquer peut-être à celles et ceux qui nous regardent, c'est qu'il y a un petit décalage et entre les questions qui ont été posées au président et son intervention hier en direct sur CNews, notamment au Conseil des ministres, voilà, il y a un décalage et le message n'est pas exactement le même.
C'est même pas que c'est pas le même, c'est que c'est l'opposé. En quelques heures d'intervalle.
Mais c'était antérieur. Je pense que le challenge, questions ont été posées.
Si vous faites une interview
antérieur.
Avant, Lionel, si on se voit le matin et que vous me dites je vais bien et qu'on se voit une heure après et que vous me dites je vais mal, je vais pas comprendre. Je crois qu'il s'est passé
absolument,
quelque chose entre
absolument.
Les deux. Bon, là, on ne sait pas.
Il y a eu un bug de com.
On ne sait pas. Bah, oui, ça sera pas le premier, vous me direz. Et tout ça pour dire que effectivement, il y avait même un décalage. Le décalage, il s'est fait beaucoup plus rapidement que ça. Entre Emmanuel Macron qui brosse un tableau très sombre des mois qui nous attendent et même l'explication de texte quelques minutes après par son porte-parole Olivier Véran, par le porte-parole du gouvernement. Donc les Français voient une communication brouillonne et n'arrivent pas à comprendre de quoi il s'agit. Et sur les expressions employées, fin de l'insouciance, fin de l'abondance, ça fait énormément réagir à gauche. On avait tout à l'heure Fabien Roussel qui était en direct avec nous sur CNews, qui disait qu'il emmenait des Français dans le Nord qui n'avaient pas pu partir en vacances, il leur permettait d'aller à la plage avec une association. Il disait... Les Français ne vivent pas dans l'abondance. Il y a de nombreux Français vivent avec de petits salaires. Donc après, on se retrouve avec Olivier Véran qui voit la polémique monter parce que Philippe Martinez de la CGT réagit dès hier en disant « Mais non, c'est pas du tout, on ne dit pas du tout que les Français vivent dans l'abondance, on parle de l'abondance énergétique. » Donc on voit bien que le message n'est pas clair. Et quand c'est pas clair, bah, y a des polémiques. Et donc effectivement, il faut peut-être revoir la communication. Parce que personne ne comprend en fait ce que le président veut dire. Même à Borne-les-Mimosas, quand il parle du coût de la liberté, tout le monde se dit « ça veut dire quoi le coût de la liberté ?» En fait, c'est les sanctions qu'on impose à la Russie. Ah d'accord, on peut pas plutôt parler clairement aux Français. Ça éviterait de nombreuses polémiques.
En tout cas, ça contribue à augmenter, Thomas Carpellini, l'angoisse peut-être qui peut exister chez les Français qui pensent déjà bon, à la rentrée, évidemment, mais au quotidien, au pouvoir d'achat, dont on parlera dans une petite heure dans cette émission plus précisément. Mais l'angoisse est là, en tout cas,
moi, pour
avec
rien,
ce message.
Pour rien vous cacher, en l'écoutant, j'ai un peu l'impression d'être dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Vous savez, c'est « je t'aime, moi non plus, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Emmanuel Macron, comme vous l'avez très justement rappelé, est le spécialiste de la godie. Il dit tout et le contraire de tout. Vous avez dit qu'il y avait des nombreux exemples, mais peut-être le plus manifeste, c'était celui où il avait dit dans une interview « il faut respecter les Français » et que le jour d'après, dans une autre interview, il disait « je vais emmerder les non-vaccinés ». Donc Emmanuel Macron a cette capacité à danser d'un coup sur la jambe droite et de l'autre coup sur la jambe gauche, qui fait que pour le Français, le contribuable, le citoyen, on est totalement perdu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est moins après une question de fond que de forme. Après tout, le président de la République a peut-être des informations qu'on n'a pas. Après tout, il a peut-être également un travail de perspective que tout le monde ne fait pas. Mais dès lors, s'il connaît des choses, s'il sait des choses, s'il voit les heures sombres arriver, qu'il l'assume en tant que président. Pas en tant que petit communicant à faire une sorte de, même pas une vraie interview, à faire une phrase volée en avant d'un conseil des ministres. C'est son rôle. Quand un président doit annoncer des mauvaises nouvelles, ça se passe à 20h, ça se passe sur les grandes chaînes nationales, c'est une allocution aux Français et c'est son job. Là, on est toujours dans ce que Emmanuel Macron adore faire, c'est-à-dire capter une de ses petites phrases, un de ses petits traits d'esprit. Et ça, c'est tout bonnement insupportable, car comme vous l'avez très bien dit, petite phrase pour plus petite phrase, ça ne fait pas un discours, ça ne fait pas une colonne vertébrale et ça perd les gens.
Je livre votre sagacité, ce que vous avez vu sans doute à l'écran, notamment sur l'optimisme d'Emmanuel Macron dans cette enquête et ces questions qui ont été posées dans le cadre donc, du magazine Challenge. Nous voilà de nouveau optimistes et déterminés, nous avons de quoi l'être en effet, notre industrie renaît enfin, le plein emploi est à nouveau à portée de main. Totale dissonance par rapport à ce qui a été fait hier. Autre message également, toujours par rapport à l'économie, la défense notamment des Français. Alors le plein emploi, effectivement, ça fait partie du programme, en tout cas des vœux d'Emmanuel Macron. Mais nous continuerons à défendre les finances des ménages français en favorisant toujours la création d'emplois et en réduisant encore nos dépendances énergétiques et par des dispositifs d'aide ciblés pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est vrai, Ludovic Villel, il y a néanmoins, il faut le dire, des mesures qui ont été prises pour aider les plus défavorisés à la rentrée, notamment primes, baisse de l'essence, des choses comme ça.
C'est ça l'abondance, est-ce que c'est ça le phénomène de bascule où ce qu'on a vécu avant, on ne peut plus le vivre aujourd'hui. Mais le quoi qu'il en coûte, c'est bien le gouvernement d'Emmanuel Macron qui nous l'ont instauré. Il nous dit maintenant, ça c'est le temps d'avant, il faut faire autrement. Son porte-parole, Gabriel Attal, nous avait dit il y a quelques temps que c'était maintenant combien ça coûte. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va continuer à maintenir encore ce pays sous perfusion et que finalement, rien ne va changer. Pour revenir sur ce que vous disiez, monsieur, je suis tout à fait d'accord. Il y a un constat qui est fait, mais le cap est où? Et peut-être que le flou entretenu par le président de la République, c'est justement parce qu'il n'est pas en mesure aujourd'hui, parce qu'il faut le blâmer, j'en sais rien, mais c'est anxiogène, manifestement, parce qu'il nous dit que relayé aussi par M. Bayrou, haut commissaire au plan, qu'on va vers des époques peut-être les plus difficiles depuis la guerre d'Algérie. Et avec ça,
depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ah, j'ai cru que c'était la guerre d'Algérie.
La Seconde Guerre mondiale.
Ce qui est encore plus considérable.
Oui. Manifestement, on ne sait pas où on va. Et ce que l'on attend d'un président de la République et d'un gouvernement, c'est effectivement de nous fixer un cap, parce que gouverner, c'est prévoir. Et là, manifestement, il ne sait pas où il va. Vous avez raison de dire, il a peut-être, je l'espère, des informations que nous n'avons pas, mais livrer cela en pâture aux Français à la veille de la rentrée scolaire, c'est manifestement une communication difficile.
Naïm Fadel, est-ce que pour vous c'est une communication à l'emporte-pièce ou est-ce que tout ceci est très contrôlé néanmoins?
J'ai l'impression que ce n'est pas contrôlé, puisqu'il dit tout et son contraire, que c'est extrêmement anxiogène et que du coup, effectivement, ça brouille complètement le message aux citoyens. C'est extrêmement anxiogène et c'est vrai que ça me rappelle la période de la Covid.
On peut dire les deux.
On peut dire les deux. De la Covid, où c'était effectivement très anxiogène. Pour le coup, Véran disait le président disait plutôt, il était optimiste et Véran était plutôt pessimiste. Mais là, actuellement, je me demande si le président n'est pas déconnecté des Français. Vous savez, la précarité aujourd'hui, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Les collectivités aujourd'hui sont obligées de voir les aides sociales pour les augmenter, pour les aider. Les associations qui viennent en aide aux citoyens les plus démunis sont en train de revoir leurs aides. Les Restos du Cœur, tout à l'heure je suis passée pour venir vous voir, il faut voir les queues aux Restos du Cœur. Les épiceries sociales et solidaires, moi-même j'étais présidente du Centre communal d'action sociale. Et aujourd'hui, ceux qui sont les plus aussi impactés, parce que du coup ils n'ont pas les aides que promet le gouvernement, c'est les classes moyennes. Parce que les classes moyennes, c'est les fameux gilets jaunes. C'est-à-dire que vous êtes ric-rac, en 100, 200 euros, vous n'avez pas le droit aux aides. Et aujourd'hui, c'est eux qui additionnent toutes les augmentations et qui s'appauvrissent. Et j'avais aussi les étudiants.
En fait, Emmanuel Macron, il aime bien ce langage martial. Vous citiez le Covid, vous vous souvenez de son fameux « nous sommes en guerre ». Et hier, c'était un peu du sang et des larmes de Winston Churchill.
Exactement.
Donc il y a quelque chose comme ça qui a décrypté. Il aime bien le langage martial, le langage guerrier, le langage inquiétant et donc anxiogène. Il parlait hier de l'anxiété des Français, juste avant le Conseil des ministres. L'anxiété des Français, avec son intervention, il l'a juste augmentée.
Est-ce que c'est le choix de soigner son image de cette manière, selon vous, étant donné qu'il est aussi un intermédiaire privilégié dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, un interlocuteur privilégié de Vladimir Poutine notamment? Est-ce que justement il est en train de travailler ce personnage, son image?
C'est possible. Il avait
sa prévenu, postérité peut-être.
Il avait prévenu absolument personne de cette allocution en ouverture du Conseil des ministres qui a surpris beaucoup de monde et beaucoup d'observateurs. Donc oui, c'est certain, il doit jouer avec ça pour pourquoi pas effectivement entretenir son image. C'est assez rare de voir un président de la République s'exprimer aussi longuement à l'ouverture d'un Conseil des ministres. Il l'avait déjà fait juste avant pour l'arrivée d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Mais avant cela, il y a très peu d'exemples, je n'ai même pas le souvenir, d'un président qui prenait à ce moment-là la parole. qui joue le faux direct. En plus, il regarde pas les caméras. Il fait comme si il était pas filmé pour parler à ses ministres. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier.
Il est vrai qu'on a été surpris parce que c'était pas prévu, hein, l'ouverture
alors, lui,
du Conseil des ministres.
Lui,
évidemment.
Sûrement,
mais à aucun moment il y avait plan de prévenir
Exactement. Personne.
Thomas Carpellini.
Moi, la chose qui m'énerve, c'est quand on dépeint Emmanuel Macron, comme vous le faites de le faire, en chef de guerre. Un chef de guerre, il déclare la guerre, mais surtout après, il l'a fait, il l'assume. Souvenez-vous du Covid quand il avait fait sa première allocution. Il avait annoncé l'apocalypse, mais il avait pas parlé du confinement. Ça avait été quelques minutes, quelques heures après, un de ses ministres qui en avait parlé. Ben là, c'est encore la même chose. Il parle de la fin des jours heureux, mais il ne nous explique ni pourquoi, ni comment. C'est-à-dire qu'il va laisser ses soldats en première ligne massés à la frontière venir nous l'expliquer. Et lui, un petit peu en Deus ex machina, en Jupiter ou en Vulcain ou en je ne sais quel autre héros de la mythologie, va rester au-dessus de la mêlée et laisser ses braves faire son travail.
La pire, parce que les ministres disent le contraire.
Et la pire. Et finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que s'il a fait campagne en poésie, aujourd'hui, il gouverne en prose. Et ce problème de la prose, c'est que c'est libre à interprétation. Et que moi, je suis désolé, j'ai lu et relu, réécouté et réécouté son intervention. On ne comprend rien. Il utilise des grands mots, des grandes formules. Alors, c'est vrai, c'est très pompeux.
Alors, vous imaginez les citoyens devant la télévision. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il s'est positionné en interlocuteur, effectivement, et en modérateur par rapport à cette guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Sauf qu'en réalité, il n'a pas mis une task force autour de lui. Rappelez-vous ce qu'avait dit Sarkozy par rapport à la diplomatie. C'est-à-dire qu'il n'a pas privilégié le temps de la diplomatie, notamment avec des diplomates qu'on a de grands personnages, quand même, personnalités. On a Hubert Védrine, on a Dominique de Villepin, même Nicolas Sarkozy s'est positionné. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le sentiment qu'à un moment, il s'est positionné comme, vous allez voir, moi, je vais faire en sorte qu'il y ait la paix, mais en réalité, il a contribué aussi à cette guerre.
Peut-être rêve-t-il d'être à l'origine d'un règlement du conflit. On couvre la peau entre la Russie et l'Ukraine.
Il a contribué à cette guerre, c'est un peu fort quand même. Il n'a pas contribué à cette guerre.
Il n'a pas contribué, mais ce que je veux dire par là, il a contribué à cette escalade aussi, puisque le temps de la diplomatie, moi je trouve que le temps de la diplomatie n'a pas été un temps long avant de commencer.
Il a fait ce qu'il a pu, il a fait des allers-retours à Moscou, il est allé voir tout le monde, les Allemands, les Ukrainiens.
Oui.
Après, Poutine avait son plan en tête. Je ne pense pas que Emmanuel Macron ait une incidence sur le fait que Poutine.
Après, on peut discuter effectivement de l'engagement de la France et de l'Europe. Et cet engagement va continuer d'ailleurs.
Il y a eu un engagement du président de la République, mais son comportement tant vis-à-vis du conflit entre l'Ukraine et la Russie qu'aujourd'hui démontre qu'il n'a pas changé, contrairement à ce qu'il nous avait promis à l'issue des élections, c'est qu'il décide seul, que ses ministres ne sont pas au courant ou pris au dépourvu. Donc voilà, et sans doute que tout seul, mais il n'y arrive pas et il entretient ce flou. Pour répondre à une de vos observations, est-ce qu'il veut se repositionner vis-à-vis de M. Poutine? Je pense que M. Poutine a parfaitement jugé, pour ne pas dire jaugé, M. Macron, et se moque totalement de savoir comment M. Macron gère...
Il se parle quand même.
Oui, il se parle.
La délégation de l'ONU qui va sur la centrale nucléaire en Ukraine.
Ils ne se parlaient plus et qu'ils étaient un peu fâchés. Mais ça, c'est le lot.
Rendu, en fait,
c'est le lot de toutes les relations. Et encore une fois, le président de la République a fait ce qu'il a pu. Ça ne s'est pas traduit par des actes totalement positifs. Mais qui aurait fait mieux? Pour l'instant, ce n'est pas à moi de le dire, mais je ne suis pas certain qu'il cherche à se positionner vis-à-vis de monsieur. Non, je crois plutôt, peut-être, et j'en termine là-dessus, qu'il essaye, il sait que les temps vont être difficiles et qu'en faisant état de temps difficiles, il essaie d'unir, c'est le vœu de tout président de la République, unir les Français face à des défis et de ne pas tomber dans des querelles politiciennes, style inflation ou autre, de notre quotidien. C'est peut-être une façon de communiquer pour nous préparer à nous dire il y a des heures graves, il faut être derrière le chef. Et pas se contenter de petites péripéties locales et hebdomadaires.
Conclusion de 15 secondes, Thomas Carpellini, avant la pause.
La temporalité est également extrêmement intéressante, c'est qu'Emmanuel Macron voit ses petits voisins européens. Il voit que l'Espagne est de plus en plus réticente à suivre les sanctions russes. L'Italie, selon toute vraisemblance, Georgina Molina, la présidente de Fratelli Italia, risque de prendre le pouvoir et on connaît ses positions très pro-Russie. On voit que Olaf Scholz est poussé, notamment par les sociodémocrates, de revoir ses positions sur le gaz russe. Donc là, est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir être Astérix dans son village sans sa potion magique?
Alors merci parce que vous me donnez la possibilité de rebondir.
Rapidement.
Ce que je veux dire par rapport à l'escalade, et je tiens à le souligner, par rapport à l'escalade des sanctions. Parce que ça, c'était une forme de contribuer et de ne pas aller dans la diplomatie. Voilà, Je reprécise.
Très rapidement, non, vraiment 5 secondes.
Que, parce que ça, c'est
certes,
important.
Effectivement, on prend des sanctions contre la Russie, voilà. Mais après, il faut voir où est-ce qu'on va chercher de l'énergie. On reçoit Mohamed Ben Salman en grande pompe à l'Elysée. Oui. On va signer un traité, Ursula von der Leyen, avec l'Azerbaïdjan, qui mène une guerre sans fin à l'Arménie et aux chrétiens d'Orient. Donc on voit que c'est ni blanc ni noir, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est comme toujours gris.
Vous aurez eu le mot de la fin, Gauthier Lebret. Merci d'être venu sur le plateau de 90 minutes matin. On se retrouve avec nos invités dans quelques instants pour un nouveau point sur l'actualité et d'autres débats. A tout de suite. « 90 minutes matin » et de retour les débats dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'actualité avec Audrey Berthaud.
En Ukraine, le bilan du bombardement russe qui a frappé hier soir une gare ferroviaire monte à 25 morts et 31 blessés. Le bombardement a eu lieu sur la gare de Tchapliné dans le centre de l'Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky, 4 wagons passagers ont pris feu. Gérald Darmanin a dévoilé le bilan de sa lutte contre le crack à Paris. Entre le 20 juillet et le 20 août, 128 personnes ont été interpellées, soit 3 fois plus que l'année dernière à la même période. Le ministre de l'Intérieur a annoncé plusieurs mesures fortes pour poursuivre son action. Il a prévu de se rendre en Afrique de l'Ouest pour trouver un moyen de bloquer le trafic à la source. À Lyon, l'ambulancier qui a percuté et tué 2 mineurs lundi a été mis en examen pour homicide involontaire. Les 2 adolescents roulaient sur une trottinette. Ils sont morts quasiment sur le coup. L'ambulancier a été placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur.
Retour sur le plateau de 90 minutes matin avec nos débats et nos invités. Thomas Scarpellini est avec nous, Ludovic de Villèle, Naïma Mfadel et Gauthier Lebret qui se sent très bien dans cette émission parce qu'elle est de qualité.
Et vous êtes là.
Et vous avez votre ronde serviette ici, vous le savez, Gauthier. Donc vous restez avec nous parce que l'actualité est dense. Et en effet, comme je disais tout à l'heure, on a aussi besoin de vos lumières par rapport à la sécurité, au ministre de l'Intérieur, très hyperactif d'ailleurs cet été, Gérald Darmanin, qui était en déplacement à la préfecture de Paris hier. Il a rappelé que la lutte contre les rodéos urbains était une priorité. On écoute Gérald Darmanin.
Depuis le mois de mai, vous avez mené à la préfecture de police plus de 23 000 opérations, menant à 2 700 interpellations, dont 554 dans la seule région parisienne, et permettant la saisie de quasiment 200 engins. Parce que cette lutte est l'affaire de tous, chaque Francilien, chaque Français, chaque citoyen, chaque personne peut désormais, à partir d'aujourd'hui, comme pour les points de deal, dénoncer les rodéos motorisés sur la plateforme de la police nationale moncommissariat.fr.
Et encore, Gauthier Lebret, un dossier chaud, une thématique importante pour Gérald Darmanin, qui occupe très bien l'espace.
Je vais vous dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Gérald Darmanin et qu'on n'avait pas entendu prendre...
3 heures, peut-être.
Oui, c'est ça, voilà. Depuis Mayotte, où il a annoncé tout un tas de choses, le droit du sol ou un centre de redressement pour les plus jeunes, effectivement, il occupe le terrain et il prend énormément d'engagement devant les Français parce qu'il a parlé aussi du crack. Alors, il avait déjà, avant l'été, il s'était déjà engagé à faire disparaître le crack à la colline du crack dans le 19e, etc., d'ici un an. Donc, c'est prendre énormément d'engagement, quitte parfois à ne pas tous les réaliser. J'allais même dire, avec mon mauvais esprit, à en réaliser très peu. Parce qu'il y a quelque chose qui attend Gérald Darmanin. Demain, ça passe devant le Conseil d'État. On attend d'ici à 48 heures la décision du Conseil d'État. Ça devrait être lundi, sur l'imam que veut expulser Gérald Darmanin depuis des semaines. Si le Conseil d'État, comme le tribunal administratif de Paris, désavoue Gérald Darmanin, qui s'est lui-même engagé dans la lutte contre cet imam et ses déclarations misogynes, homophobes, antisémites, ça sera un nouveau revers pour le ministre. On sait aussi pourquoi il se multiplie sur le terrain. Il y a 2 raisons. Bon, déjà, il a des ambitions présidentielles. Et ensuite, il veut faire oublier son terrible échec du Stade de France.
Alors, pour rester sur les rodéos, sur ce dossier qui vraiment concerne tout le monde au quotidien, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, notamment sur CNews, en effet. Ce que propose aussi Gérald Darmanin, au-delà des forces de police, des 3 contrôles quotidiens pour chacun des commissariats, c'est Naïma Mfadel. Cette plateforme mise à disposition, une plateforme internet, moncommissariat.fr, où les citoyens peuvent signaler justement des rodéos, comme ça a été le fait d'ailleurs pour des points de deal par le passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Ce sont les citoyens finalement qui sont là pour travailler, collaborer avec la police.
Sur ces questions-là, comme sur le terrorisme, je pense que ces questions-là engagent les citoyens entièrement. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Après, la question que j'aurais, parce que j'ai connu ça dans ma profession antérieure, on avait un site, effectivement, où les citoyens étaient appelés à signaler ce qu'on appelle les signaux faibles par rapport à l'islamisme. Le problème, c'est que je ne suis pas certaine que ça marche. Je trouve que c'est bien, hein, oui. Mais je ne suis pas certaine parce que souvent, les gens ont peur d'appeler et ils ont peur d'être identifiés. Donc, il faudrait, dans la communication, rassurer les citoyens qui ne seront pas identifiés. Parce que les gens, pour être honnête avec vous, ils ont peur des représailles. Donc, parce que... Oui.
Oui, non, j'ai dit qu'il faut préserver l'anonymat de celles et ceux qui veulent signaler.
Effectivement, les gens ont peur que c'est souvent des voyous, c'est souvent des délinquants, on le sait très bien. Donc, ils auront peur que ces délinquants puissent, réagir contre eux. Donc, il faut trouver les moyens de rassurer les citoyens pour que chacun puisse appeler, être dans cette démarche citoyenne qui protège finalement non seulement les citoyens, non seulement ceux qui peuvent être victimes de ces jeunes qui sont en redire, et même ces jeunes-là.
Avec Internet, Ludovic de Villèle, l'anonymat normalement est respecté. Alors il faut faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de tentative de blague.
Oui, l'anonymat doit être respecté.
Sérieux.
Maintenant, c'est une idée, au départ on peut trouver que, pourquoi pas, c'est une idée... plus ou moins nouvelle, vous l'avez rappelé, si ça permet de permettre tout de suite aux forces de l'ordre d'aller sur un endroit que l'on sait dangereux, pourquoi pas. Mais pour autant, c'est le rôle de la police. Encore une fois, c'est cette police de quartier, cette police de proximité, ce sont eux qui sont compétents, qui savent soit anticiper ces rodéos, soit y mettre un terme. Et les citoyens ne sont pas là pour faire de la délation. Le mot, de ma part, est un peu fort. Pour autant, je trouve que c'est peut-être une bonne idée. Il faut voir. Je ne sais pas ce que ça a donné avec ces délations pour le deal. Je ne sais pas quel est le... Bon, si le ministre nous le propose, c'est peut-être une bonne idée, mais je serais très prudent à ce stade parce que je trouve que ce n'est pas aux citoyens à faire la police, même si, vous l'avez rappelé, encore une fois, ça fait partie aussi d'une prise de conscience et d'une responsabilité lorsque dans la cité, il y a des manifestations de rodéo et les policiers ne peuvent pas être partout et ne peuvent pas être derrière chaque moto. Donc, à voir.
Mais non, et puis, étant donné que les habitants en général se plaignent énormément de ces rodéos, avec tout ce que cela peut provoquer, évidemment, comme nuisance. Voilà.
Les drames,
évidemment, bien sûr, en priorité. Créer une espèce de relation entre les plaignants et les policiers, ça paraît naturel.
Est-ce la solution ? Non.
Non.
Est-ce une bonne idée ? Est-ce que cela va permettre d'améliorer un petit peu les choses ? Peut-être.
Peut-être, mais pas sûr.
Pas sûr. Vous savez, on a souvent été... avec une certaine facilité pour sonner la lali face à une action gouvernementale qui peine à jouir, qu'on met beaucoup de temps à attendre. Là, il propose quelque chose. Est-ce que ça va marcher? J'en suis moins sûr. Vous vouliez les chiffres sur les points de deal. Moins de 1% des interpellations des points de deal sont liées à ces dénonciations. Donc, est-ce que ça va vraiment fondamentalement marcher? Non, peut-être, ça peut peut-être davantage marcher, non pas sur le point de vue policier, mais sur le point de vue de la citoyenneté. C'est-à-dire que ça permet à ces habitants de quartier ou même de centre-ville de peut-être davantage récupérer leur quartier, se sentir investi, se sentir engagé. Et peut-être que dès lors, notamment les personnes un peu plus âgées, celles qui sont souvent dans les quartiers, ça va les permettre de remettre un pied davantage dans la citoyenneté, dans un dialogue, dans un débat avec la police. Donc, sur le papier, pourquoi pas, dans les faits, à voir.
Gauthier Lebret.
Un exemple très concret. J'étais cet été de passage dans un petit village d'Auvergne, 1000 habitants. Il y avait deux jeunes qui faisaient des rodéos urbains et qui embêtaient les habitants jusqu'à minuit, 1h du matin, en passant sous leurs fenêtres. Tout le monde savait qui c'était, un petit village de 1000 habitants. Vous savez très bien les fils de quel habitant, de quel habitant il s'agit. Et pourtant, il ne se passait rien. Les policiers, les gendarmes plutôt, n'intervenaient pas. Donc en imposant un résultat, un nombre de contrôles par jour, c'est peut-être la vie de ces citoyens aussi qui va être allégée.
Ça, c'est pas tout à fait un autre sujet, mais c'est une autre méthode.
Cela contribue à toute cette méthodologie, c'est-à-dire les contrôles supplémentaires, mais également les sites Internet.
C'est pas votre question, donc je ne veux pas trop développer là-dessus. C'est qu'est-ce que l'on fait une fois que l'on a mis la main sur ces gens-là? Que fait-on?
Bien sûr.
Des motos, il faut un arsenal répressif.
Et la justice, évidemment, doit faire son œuvre.
Il faut savoir que les motos, quand elles sont saisies, sont détruites. Elles pourraient être revendues. Et l'argent pourrait se permettre de retaper des commissariats ou d'acheter du matériel.
Il faudrait sans doute les retrafiquer pour qu'elles soient en bon état. Peut-être que ça
Naïma M. Fadel, juste un petit mot encore. J'aimerais qu'on parle aussi
rebondir sur un autre sujet, Thomas, qui est très important. Parce qu'en signalant les points de deal, quand les habitants signalent les points de deal, ils récupèrent effectivement leur quartier. Et je l'ai vu sur ma ville. Je peux vous dire que c'était gangréné sur certains quartiers par la drogue et les points de deal, etc., avec le chouf, etc. Et en signalant, les habitants ont effectivement récupéré leur quartier.
Et ça peut peut-être... Oui, mais bien sûr, mais sur le dossier brûlant du crack, ça peut être aussi la même méthodologie, pourquoi pas, puisque le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est aussi félicité du bilan de la préfecture de police sur cette thématique, dans la capitale, notamment avec 128 arrestations en un mois. Et il a annoncé d'ailleurs qu'il se rendra très prochainement en Afrique de l'Ouest pour essayer d'arrêter, d'intervenir justement de là, à l'endroit où partent ces... point de crack notamment et ses filières en effet. On écoute Gérald Darmanin.
Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort. Le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démanteler les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapide des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue pour que les habitants de Paris et des départements de Petite Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
Car en effet, Thomas Carpellini, le marché du crack à ciel ouvert, c'est un sujet très très brûlant, c'est le grand sujet de Paris.
Exactement. Puis là, on se rend compte que Gérald Darmanin a une généalogie politique particulière. C'est un sarkozyste. Il fait du Sarkozy. À défaut d'être le premier ministre, il veut être le premier des ministres. On le voit sur tous les fronts. On le voit se déployer à gorge ouverte pour attaquer tous les sujets les uns après les autres. Et sur la question du crack, c'est également un enjeu national. Ce n'est pas simplement Paris. Vous l'aviez rappelé à très juste titre, après le fiasco du Stade de France, la communauté internationale s'était un peu moquée de la France et de sa gestion
plus
de l'ordre.
Un peu même.
Carrément, vous avez raison, on va arrêter avec les euphémismes. Et Gérald Darmanin sait qu'il y a un événement qui va arriver très vite, c'est les Jeux Olympiques. Et il sait parfaitement que là, ça va être 7 milliards d'habitants qui vont regarder Paris. Et vous pouvez être certain que si tantôt le gouvernement, pour en avoir un petit peu cure des attaques dans la presse nationale, il est paralysé, à mon sens, d'une une du New Yorker, du Daily Mirror ou de je ne sais quel média parlant de Paris comme d'un véritable coupe-gorge. Donc ça, à mon avis, Gérald Darmanin a parfaitement conscience de cet enjeu. Comme vous l'avez dit, à mon avis, il a un intérêt politique en plus à être celui qui, pour la première fois, va essayer à régler ses problématiques. Donc il a tout à gagner. Donc croyez-moi, il a également tout intérêt à tout mettre en place.
Dans la phase répressive et dans le cadre de l'intervention des policiers, je vous soumets également le résultat de l'étude CSA CNews. Les policiers, c'est la question qui a été posée, ont-ils raison d'utiliser leur arme de service quand leur vie est menacée? Large majorité de Français répond oui à 94%. Détail de ce sondage avec Arthur Moriot et on en parle en plateau.
Refus d'obtempérer, guet-apens, quotidiennement, la vie des policiers français est mise en danger. Une menace, les contraignant parfois à riposter. D'après un sondage de l'Institut CSA pour CNews, 94% des Français pensent que les policiers ont raison d'utiliser leur arme quand leur vie est menacée, contre 6% d'avis défavorables. Pour les syndicats de policiers, ces résultats doivent désormais mener à une réflexion politique.
Quand on voit des sondages comme ça, où on sent qu'on a déjà une partie de la population, enfin la population même au total,
94%,
c'est énorme, qui est derrière nous. Moi, on se dit, maintenant, j'espère que nos hommes politiques, nos décideurs, notre exécutif, vont comprendre que les Français demandent quelque chose et demandent à appuyer les policiers.
Dans le détail, ce sont généralement les plus jeunes et les sympathisants de l'extrême gauche qui sont les plus opposés à ce recours à la légitime défense, pourtant autorisé par la loi française.
15% des 18-24 nous disent que les policiers n'ont pas raison d'utiliser leur arme quand leur vie est menacée. Et ça grimpe également à 14% chez les sympathisants de la France insoumise.
Comme le rappelle le Code de la sécurité intérieure, si leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui sont menacées, les forces de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes.
Les Français soutiennent donc la police. Cela semble quand même, Ludovic de Villèle, assez rassurant. Surtout dans une période un peu contrastée tout de même, où le respect de l'uniforme est en train de s'amenuiser.
Oui, alors c'est rassurant, bien sûr que c'est rassurant. C'est dirais, du bon sens. Mais ce n'est pas la première fois que ce sondage-là, 94%, c'est un très fort score.
C'est massif.
Mais il y a quelques mois, il y avait 73%. Donc, il n'y a que chez la France insoumise et chez certains radicaux de gauche que l'on critique la police. Mais le premier, je le rappelle, le premier devoir d'un État, c'est d'assurer la protection et la sécurité des Français. Et nous avons là des policiers municipaux, des policiers nationaux, la gendarmerie, des pompiers, bref, les forces de l'ordre pour assurer notre sécurité. Tout cet été, parce que vos médias en font l'écho, tous les jours, nous avons des refus d'obtempérer, des policiers qui sont bousculés. Donc, à un moment donné, les Français voient la réalité et se disent ça suffit. Donc effectivement, c'est rassurant, mais il n'y avait que les quelques leaders politiques, ce sont toujours les mêmes aujourd'hui, qui refusent et qui stigmatisent la police et les forces de l'ordre, mais ça, c'est dans leur idéologie.
Gauthier,
la réalité est différente.
Gauthier.
Le plus intéressant dans ce sondage, c'est qu'il y a plus de 80% des électeurs de la France insoumise qui trouvent normal que les policiers fassent usage de leurs armes. Donc là, il y a un décalage qui est énorme entre le discours de Jean-Luc Mélenchon qui dit « la police tue ». D'ailleurs, beaucoup d'observateurs ont noté que ça lui a sans doute coûté des sièges lors des élections législatives. Il y a un front anti-France insoumise qui s'est monté, comme à l'époque, il y avait un front républicain contre le Rassemblement national. Là, ça s'est inversé. C'était intéressant de voir que dans les duels RN-LFI, c'est majoritairement le Rassemblement national qui l'emportait. Et sans doute à cause de ces phrases trop tonitruantes contre la police. On se souvient aussi, pendant la campagne présidentielle, d'un débat très tendu entre, c'était chez Cyril Hanouna sur C8, entre Jean-Luc Mélenchon et un policier qui avait été d'une très grande violence à l'égard de ce policier. C'est peut-être aussi les limites de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Il faut aussi noter qu'en fait, les électeurs qui votent France insoumise ne s'intéressent pas tellement à ces questions-là, mais plutôt aux questions de pouvoir d'achat, notamment.
La France insoumise, on en parle justement, puisque quelques jours après la mort de deux hommes tué par des policiers à Vénissieux, suite à un refus d'obtempérer, la France insoumise a demandé dans un communiqué la suppression de la BAC et de la BST. Alors, ce n'est pas nouveau, mais la France insoumise réitère. Comme le disait Gauthier, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait dit « la police tue ». Oui,
il avait même demandé à désarmer la police, alors que là, ses électeurs trouvent légitime qu'ils fassent usage de leurs armes.
Il y a ce communiqué, donc, la LFI qui réitère, et Mathilde Panot, la présidente de la France insoumise à l'Assemblée nationale, le confirme. En comparant, vous allez l'entendre, les forces de l'ordre à la grippe.
La police tue, je vais employer une comparaison qui peut-être va vous paraître bizarre, mais c'est comme quand lorsque vous dites la grippe tue. Ça ne veut pas dire que la grippe tue à chaque fois, mais ça veut dire que oui, il y a des cas de violence policière qui ne sont pas acceptables. Et je dois dire que lorsqu'une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui n'est même pas en train de conduire, est tuée alors que, très clairement, même s'il y avait un refus d'obtempérer qui aurait été avéré, ce n'est pas elle qui était en train de conduire, ce n'est pas
mais
acceptable.
Au-delà de... Naïma M. Fadel, faut-il trouver maintenant un vaccin contre la police?
Surtout un vaccin contre LFI, j'ai envie de dire, parce que c'est gravissime, cette posture anti-républicaine de LFI. C'est extrêmement grave venant d'élus qu'on puisse qualifier ainsi nos policiers qui sont quand même, qui ont des missions de protection des citoyens. C'est extrêmement grave parce qu'ils mettent à mal la République et ils mettent à mal la cohésion nationale. Et ils font des délinquants des victimes. Donc, je suis extrêmement scandalisée. Et je vais vous dire, hein, j'en appelle encore une fois à une charte de l'élu. Parce que les élus, à partir du moment où vous êtes élu, vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi. Et vous n'avez pas le droit aussi de mettre à mal la République.
Thomas Carpellini, ce que veut LFI, en fait, c'est réformer la police totalement. Ce n'est pas la faire taire, mais c'est changer totalement le visage de la police, dans le fond.
Vous y croyez? Non.
Pose la question.
Ils cherchent à parler à leur électorat. Et comme vous l'avez dit, sans comprendre cette asymétrie entre leurs paroles et la volonté, ou du moins les aspirations de leur électorat. Pourquoi? Parce que là, les filles sont dans une volonté de renversement des valeurs. C'est-à-dire que là où 94% des Français sont d'accord pour dire que dans le jeu du policier et du voleur, c'est le policier qui a le pistolet et pas le voleur, la France insoumise dit « Ah non, policier, voleur, égalité, on va retirer le pistolet aux deux ». C'est-à-dire qu'ils veulent finalement armer de pâquerettes et de jolies fleurs nos forces de l'ordre, parce que pour eux, justement, la police, ça tue, la police, ce sont les méchants, alors que les personnes dans les cités sont de facto, stricto sensu, les gentils, agressés par les méchantes forces de l'ordre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, plus précisément, sur la BAC. La BAC, il faut bien rappeler que c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, c'est la brigade anticriminalité. Ce sont des forces de police qui sont souvent expérimentées, qui ont un pouvoir judiciaire, qui ont chevillé au corps une volonté de sécurité publique. Et dès lors, la BAC, vous savez, pour parler très simplement, c'est celle qui intervient quand il y a des rixes. C'est celle qui intervient quand il y a de la violence urbaine. C'est-à-dire que la BAC, les Français du quotidien, y ont affaire quotidiennement.
Y compris lors des manifestations à laquelle la France insoumise participe. Donc c'est pour permettre l'expression démocratique. Il faut
exactement. Et dès lors, vouloir supprimer la BAC, qu'est-ce que c'est si ce n'est faire la danse du ventre, si ce n'est faire le serpent K dans le livre de la jungle, susurrer des mots doux, parce que oui, la BAC, ce sont celles et ceux qui interviennent en première ligne dans les cités, ce sont celles et ceux qui interviennent en première ligne contre la délinquance. Donc oui, ils ont le rôle du méchant, mais sauf que ce ne sont pas les méchants pour la société, ce sont les méchants pour les méchants. Or, la France insoumise, dans ce renversement de valeurs, essaye de faire passer les gentils pour les méchants pour les gentils.
Ce qu'il faut préciser en plus dans l'histoire de Vénissieux, Ludovic de Villèle, c'est que les deux hommes qui ont été tués, évidemment, ce sont des victimes, on ne peut pas s'en féliciter, mais étaient deux hommes qui étaient connus des services de police, dont un qui a été condamné, et les deux policiers, un a été blessé d'ailleurs, se sont sentis en danger.
Oui, alors, juste un petit bémol, les policiers qui ont tiré en état de légitime défense, et vous l'avez rappelé, le code de la sécurité intérieure encadre très strictement l'usage des armes à feu. Ces policiers qui sont intervenus ne connaissaient pas le passé de ces deux garçons que
non,
vous
mais,
avez rappelé.
Mais ils ont refusé d'obtempérer.
Ils ont refusé d'obtempérer.
En mettant la vie des policiers en danger.
Je rappelle, voilà. On le sait maintenant,
bien sûr.
26 000 refus d'obtempérer par an et moins de 1% d'usage des armes.
C'est un toutes les demi-heures ou un toutes les 20 minutes en France.
Vous savez, il y en va parfois des militaires, mais aussi des gendarmes qui sont des militaires ou des policiers. Une forme d'inhibition, si on leur met tellement de difficultés ou ensuite des procédures judiciaires, et il y en a lorsqu'ils sont mis en examen systématiquement, donc c'est un traumatisme pour ces policiers et ces gendarmes lorsqu'ils font l'usage des armes, si on met trop de difficultés pour eux lorsqu'ils utilisent leurs armes, ils sont inhibés et c'est comme ça qu'il y a des drames qui se poursuivent. Donc il faut un usage qui est très encadré par la loi. Encore une fois, il est extrêmement limité. J'ai rappelé les chiffres tout à l'heure et M. Mélenchon est dans une posture que visiblement sa base ne suit pas, mais je vous rappelle qu'il veut détruire la République, ça c'est clair, il l'a dit devant les policiers venus perquisitionner au siège de son parti, la République c'est moi. Donc il est au-dessus de ça.
Je vous cède la parole dans un instant, Naïma Mfadel. Je voudrais juste vous faire écouter notamment Alain Barberis, qui est secrétaire départemental Alliance Police du Rhône et qui réagit justement à cette proposition de la France insoumise de supprimer la BAC.
Ce communiqué de presse, pour nous, n'est pas une surprise et c'est leur fonds de commerce. Le policier, il a cet ultime recours, ça s'appelle la légitime défense. Et concernant l'affaire de Benicio notamment, nos collègues ont notre total soutien. Et concernant les BAC ou les unités d'appui opérationnel, elles ont prouvé déjà dans le passé, notamment sur les attentats, que leur nécessité d'exister. Donc pour nous, il n'y a pas de débat.
Voilà, Naïma Mfadel, les chiffres sont là, la BAC évidemment est connue de tous les Français. Ce que fait la France insoumise, c'est peut-être tout simplement de la politique politicienne.
Effectivement, et pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, ils sont complètement déconnectés de leur électorat, et notamment de l'électorat aussi des quartiers, parce que la majorité des habitants des quartiers aiment la police et ont envie de plus d'autorité. C'est une minorité.
Ça ne se voit pas toujours,
non,
ça, Naïma Mfadel.
En fait,
en apparence,
Lionel,
comme ça.
Il faut que vous sachiez une chose, c'est que c'est une minorité qui tient les quartiers. Il faut savoir quand ils interviennent. Tous ces problèmes qui ont eu lieu dans notre pays, notamment dans les quartiers, que ce soit quand on brûle des voitures, quand on caillasse, etc., ça pose des problèmes à qui en premier? Les rodéos de voitures, les rodéos de moto. Ils ont lieu où? Dans les quartiers. C'est là où intervient la police. Donc le problème de nos quartiers, c'est qu'ils sont tenus par une minorité très agressive et qui prend en otage les habitants. Non, je tiens vraiment à le dire. Et ceux qui votent, en fait, et les filles, regardez le taux d'élection au niveau des inscrits, au niveau des élections. Vous allez voir que 80% des personnes ne se sont pas déplacées pour aller voter. Donc en vérité, c'est que 20%. Le maximum de votants dans les quartiers. Donc ça veut bien dire quelque chose. Donc le problème qu'ils ont, et les filles, c'est qu'ils ont une lecture qui est complètement faussée.
Gauthier Lebret, est-ce que LFI a intérêt à insister sur ce dossier par rapport
si
à son électorat?
Les législatives, non, parce qu'ils ont fait une alliance avec la NUPES, donc cette espèce d'écran de fumée pour faire croire qu'ils ont fait un meilleur score qu'aux élections d'avant, mais pas du tout. Exactement. Si on additionne les députés PS, les députés écolo, les députés PCF et les députés insoumis de la mandature précédente, il y en avait plus. Donc on a vu que leur outrance, cette phrase très forte « la police tue », a fini par coûter des sièges à Jean-Luc Mélenchon et à la NUPES. D'ailleurs, il y a des, comment dirais-je, ça se bat dans la NUPES, tout le monde n'est pas d'accord. Ils vont avoir beaucoup de mal à faire une liste commune aux européennes parce que ça commence à se voir, les désaccords entre le traitement qu'ils ont envers la police et aussi, on voit bien, différents. Olivier Faure ne parle pas de la police comme Jean-Luc Mélenchon.
Une toute dernière réaction d'ailleurs à ce sujet, c'est Mathieu Vallée, maintenant le secrétaire national adjoint du syndicat des commissaires de police.
C'est les propos de la France insoumise qui tuent la République, qui tuent en fait l'État de droit, puisque les policiers, c'est ceux qui permettent qu'on vive tous ensemble dans notre beau pays qui est la France. Ces extrémistes de gauche qui en réalité ont une cible, la police, alors que ça devrait être les voyous, vous savez. C'est les voyous qui tuent les policiers, qui tuent les honnêtes gens. C'est pas la police. Quand vous respectez les policiers, quand vous respectez l'État de droit, quand vous respectez la République, en fait, vous n'avez jamais de problème.
Thomas Scarpellini, pour conclure sur ce sujet, le fait que la France insoumise insiste sur ce dossier de la police tue, c'est cette phrase qui reste et qui résonne encore une fois dans nos têtes, est-ce que ce n'est pas un message dangereux également pour le travail des policiers au quotidien?
C'est au-delà de dangereux, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, on pourrait même peut-être un jour questionner la responsabilité de ce genre de déclaration dans l'agissement public. Après tout, des jeunes ou des moins jeunes qui entendent que la police tue, qui entendent que la BAC sont des criminels, qui entendent toutes ces choses, n'est-ce pas aussi une façon de leur susurrer, parce que mezza voce, une sorte de chèque en blanc. Vas-y, fais-le, ce n'est que la police. Et dans tous les cas, la police, elle est dangereuse, violente, raciste, tout ce que vous voulez. Donc on pourrait également se réfléchir en termes de citoyens faisant la cité, pour reprendre Aristote, sur quelle est la responsabilité de Mathilde Panot, de Jean-Luc Mélenchon.
Une charte, moi, j'en appelle à ce qu'on puisse... mettre face à leurs responsabilités les élus.
Alors c'est aussi là la protection du débat public dans l'Assemblée. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous ne serez jamais condamné, parce qu'on pense aussi qu'il faut protéger le débat public et que chacun puisse exprimer ses opinions. Et après, libre à tout le monde d'en débattre.
La notion de sûreté de l'État, pour moi, Gauthier.
La question de la...
Là, c'est quand même la police. C'est pas,
bien sûr.
Vous voyez, c'est pas,
ils sont très critiqués. L'opposition aussi est là pour dénoncer.
Ils ont des missions de protection de l'État. Discours.
Peut-être juste une phrase. Peut-être également revenir sur l'impunité. J'ai l'impression que la France insoumise et la NUPES en règle générale peut tout dire. On leur laisse tout passer. Quand
mais pas tout faire. Jean-Luc Mélenchon a été condamné pour rébellion, je vous rappelle, lors de la perquisition.
Et il s'en est vanté.
Et ils s'en vantent. C'est vrai qu'ils s'en vantent.
On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci, Gauthier.
Cette fois, c'est vraiment la bonne.
Vous restez encore ou pas?
Non, cette fois, je pars vraiment.
Vous êtes toujours le bienvenu. Sachez-le.
Très gentil, Lionel. À demain.
Vous reviendrez peut-être à 15h30 tout à l'heure pour 90 minutes info. On marque une pause. Un point sur l'actualité. Notre débat, tout de suite. 90 minutes matin, nos débats dans une dernière demi-heure d'une émission toujours très agréable. À tout de suite avec d'abord Audrey Berthaud pour les infos.
L'inflation en France, pas d'amélioration avant début 2023, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire hier soir. Le scénario d'une inflation à deux chiffres ne serait pas prévu pour le moment, a ajouté le ministre, alors que les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an au mois de juillet. L'ex-femme du tueur pédophile Marc Dutroux sera totalement libre dimanche au terme de sa libération conditionnelle. Condamné en 2004, Michel Martin a été reconnu coupable d'avoir activement participé aux monstruosités de Marc Dutroux. L'homme avait séquestré 6 fillettes en 1995 et 1996. 4 sont décédées. Michel Martin n'a donc purgé que 16 des 30 ans de prison auxquels elle avait été condamnée. Toute manifestation sera interdite en vue du match Nice-Tel Aviv. Le match de barrage retour de la Ligue Europa Conférence est prévu ce soir à 20h. Pour éviter les débordements, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit tout rassemblement autour du stade. Une trentaine d'étudiants de Sciences Po avaient prévu une manifestation pour dénoncer les actions des forces israéliennes sur le territoire palestinien.
Et en effet, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Français. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré qu'il ne fallait pas attendre d'amélioration sur le front de l'inflation avant début 2023. Nous n'avons pas aujourd'hui de scénario, dit-il, qui prévoit une inflation à deux chiffres en France. Les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an en juillet. Du coup, je vous pose la question, Thomas Scarpellini, est-ce qu'on doit s'en satisfaire? On ne fait pas partie des plus mauvais, en quelque sorte. C'est ce que semble dire le ministre de l'économie.
Ma grand-mère serait là, elle vous dirait « attention, raison gardée ». Vous savez, des économistes indépendants comme Édouard Malafos dit que l'inflation sera un peu plus élevée. La BCE est beaucoup moins encourageante que Bruno Le Maire. Certains experts du FMI aussi. Donc on entend, certes, ce que nous dit Bruno Le Maire, que l'inflation restera sous la barre des 10%. J'espère qu'il ne nous raconte pas de salade et qu'il n'essaye pas de ménager la chèvre et le chou. Mais bon, ça c'est la première chose. La deuxième sur, finalement, que peut faire Bruno Le Maire contre l'inflation? Et bien, c'est extrêmement compliqué de lutter contre l'inflation quand on est dans un cercle, du moins autour d'une table à 27. C'est-à-dire que la France, avec sa monnaie unique, avec sa monnaie commune, l'euro, n'est pas la seule décisionnaire pour décider quand ou comment baisser l'inflation. Donc on est également tributaire de la volonté des uns et des autres, de nos partenaires européens. Et cela va poser une réelle difficulté, car nous avons des économies différentes. Pour aller très vite, pour rappeler un peu les cours d'économie aux personnes en face de moi qui n'ont plus mon âge malheureusement... Il y a en France ce qu'on appelle une économie moyenne, c'est-à-dire qu'on construit, on a d'un côté une industrie lourde et de l'autre une industrie plus légère. En Allemagne, c'est quasiment que de l'industrie lourde. En Italie, c'est quasiment que de l'industrie légère. Or, l'inflation, c'est-à-dire la capacité de fixer des prix, va être totalement différente. C'est-à-dire que Là où il y avait une volonté d'avoir beaucoup d'inflation dans le sud, elle n'est pas du tout partagée à avoir très peu d'inflation dans le nord. Et si même on a un petit peu de mémoire, souvenez-vous, lors de la dernière crise financière en 2008, c'était pas de l'inflation, c'était financier, il y avait un front commun de la communauté européenne de parler de l'euro fort. Il fallait un euro très fort. Et on était tous derrière cette bannière, tous derrière ce slogan. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que l'euro fort n'est plus du tout défendu. L'euro égale le dollar actuellement. Quelque chose qui était impensable économiquement en 2008 et qui va même aujourd'hui devenir plus que réalité, car selon les perspectives, on estime même que le dollar va passer au-dessus de l'euro. Donc Bruno Le Maire, pas d'amélioration avant début 2023. Oui, ça, évidemment. Et on pourrait même penser, dans le pire des cas, qu'elle peut s'installer, cette inflation, qu'il va falloir vivre avec, car finalement, il n'y a pas une solution magique pour la lutter et que tout dépend dans un monde interconnecté, dans une mondialisation, dans une communauté européenne. La France, avec ses petits bras, tout seul, ne pourra pas y lutter.
Voilà, Ludovic de Villèle, on nous prépare peut-être progressivement, par étapes, à vivre cette récession qui est là, hein, de toute manière, qui va exister, mais qui va peut-être augmenter. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en citant François Bayrou, la France va peut-être vivre la pire période depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que les Français sont prêts à cela, à faire encore des sacrifices?
Est-ce qu'ils sont prêts? Je pense qu'ils pourraient
être pas le choix.
Prêts si on leur parle de manière transparente et comme des adultes et pas comme des enfants, où on maintient le matin, vous l'avez dit tout à l'heure, un discours, l'après-midi un autre, et finalement on ne s'y retrouve pas. Et donc ce discours qui est à la fois je gère les manettes, je ne sais pas où on va, ça sera pas, il peut y avoir pire que nous, mais ne vous inquiétez pas, je crois que les Français ne peuvent pas entendre ça. Et il est temps. C'est la rentrée, c'est la fin des vacances. Il est temps que le gouvernement nous prenne au sérieux et nous dise quels sont les moyens pris par l'État pour nous permettre d'avoir une rentrée qui va, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, ça a été commenté sur ce plateau, être extrêmement difficile. Et je ne sais pas si c'est la fin de l'abondance, mais nous savons encore, puisque le gouvernement l'a promis, qu'il va encore y avoir des aides qui vont être maintenues. C'est bien pour les plus bas salaires, mais ça aussi, ça contribue à l'inflation. Et je reviens sur ce leitmotiv parce que c'était celui du gouvernement et précisément du président de la République, le quoi qu'il en coûte, on est encore là et on va le payer. On va le payer, le quoi qu'il en coûte. Malheureusement, je pense que début 2023, rien n'aura changé, voire, je l'espère pas, cela se sera aggravé.
La fin de l'abondance.
La guerre se termine, à moins qu'on va dire que peut-être on va avoir une bonne surprise.
C'est pas parti pour. Hein.
Bon, écoutez, on va arriver. En tout cas, ce qui est sûr sur cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas faire l'économie de s'appuyer aussi sur l'Association des maires de France, parce qu'ils ont toutes les collectivités, au-delà des clivages politiques, etc., qu'il faut mobiliser pour répondre aux difficultés que vont rencontrer leurs administrés. Et puis, j'ai vu ce matin qu'effectivement, les grandes surfaces sont en train de se mobiliser sur des denrées de première nécessité. Donc, ça, c'est important. Et je pense que ce que peut faire aussi le gouvernement et le président Macron, à la différence du discours qui étaient complètement opposés l'un à l'autre, d'avoir peut-être un discours beaucoup plus de mobilisation générale, avec une vision et avec un espoir au bout.
On parlera d'ailleurs justement de ce que font les supermarchés, les hypermarchés, les grandes enseignes pour essayer d'aider les Français, en tout cas d'alléger un tout petit peu la facture ou la note. Mais on peut s'attendre tout de même à une rentrée sociale assez tendue. On écoute d'abord Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
Il pèse ses mots quand il parle, le président de la République, et il envoie des messages. Il parle d'abondance et tout de suite derrière... il veut s'attaquer une nouvelle fois aux chômeurs en réduisant l'assurance chômage. Donc c'est le discours typique que tient le président de la République depuis qu'il est élu, pas la deuxième fois, dès la première fois. C'est ces petites phrases qui sont méprisantes vis-à-vis de la population et qui montrent sa visée politique.
On n'a pas beaucoup de visibilité pour l'instant sur cette rentrée, Thomas Carpellini, mais enfin, tout de même, il y a des sensations en filigrane qui nous laissent penser que ça peut être un peu tendu.
Alors oui, évidemment, et d'ailleurs, ça fait même écho à notre discussion précédente, c'est qu'Emmanuel Macron cherche surtout pas à s'impliquer dans ces discussions. On entend parler avec de grandes formules, certes, mais il n'est pas au front sur la question de l'inflation, du pouvoir d'achat ou de la sécurité. Il a décidé de rester sur l'international. Là, avec une rentrée sociale, comme vous avez dit, une inflation qui pourrait atteindre les 10%. Actuellement, je crois qu'il y a un Français sur 7 ou sur 8 qui est presque sous le seuil de pauvreté. Un chômage entre 6 et 8 millions de personnes. Ce sont des enjeux majeurs de politique publique, des enjeux majeurs de cohésion de société. Où est notre président sur cette problématique ? C'est la première chose. La deuxième, c'est que Si on était un petit peu cynique, on pourrait dire que la godille sur les questions internationales, ça peut être problématique, mais bon, les Français, entre ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe chez eux, c'est ce qui se passe chez eux qui est le plus important. Là, si Emmanuel Macron continue à faire de la godille sur ces questions-là, sur l'inflation, sur les questions de pouvoir d'achat, les Français ne vont pas le supporter. N'oublions pas que la dernière présidentielle, ça n'a pas été un triomphe pour Emmanuel Macron. Il n'a pas été réélu avec le même score qu'en 2017. Il a réuni moins de voix. On voit qu'il n'a pas eu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc on voit que les Français sont beaucoup l'attente davantage au tournant. Et là où politiquement on pourrait faire une analyse, c'est que là où généralement on dit qu'après une élection, il y a un état de grâce, Emmanuel Macron semble tomber dans un état d'obligation. Les Français lui mettent un mandat impératif, en l'espèce, règle-nous ça, parle-nous, offre-nous des solutions, bonnes ou mauvaises, ça c'est ton job, mais on veut des choses concrètes. Et là, actuellement, Emmanuel Macron décide de rester tel Marc Aurèle sur le portique des philosophes en haut du Mont Laventin et ne nous parle pas. Où sont les annonces du président de la République? On nous annonce un cataclysme, on nous chante la chanson sans parole.
La fin de l'abondance, c'est le titre,
mais ça veut rien
le
dire.
Titre de la chanson.
Exactement.
Mais c'est ce qui revient exactement. Et après, il laisse le soin, notamment à son porte-parole Olivier Véran, de décrypter, d'essayer de rassurer. Et d'ailleurs, c'est un tout petit peu en contradiction d'ailleurs avec ce que dit Emmanuel Macron. On écoute Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
Ici et là, on entend parler de rentrer sous tension. Ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Face aux événements passés, face aux événements à venir, nous préférons et nous appelons à l'unité de la nation, à l'union. D'abord, nous avons protégé le pouvoir d'achat, je le disais, comme aucun autre pays en Europe. Les résultats sont là, je vous les partage sans aucun triomphalisme, bien sûr, car je sais que le quotidien de nombreux de nos concitoyens est encore complexe et leur morale parfois en dents de scie. Mais force est de constater que nos mesures ont fonctionné. Hormis Malte, personne ne fait mieux que la France en Europe. Notre inflation est de 6,7% alors qu'elle dépasse les 8% en Allemagne, ce qui correspond 8% à un mois d'impact de salaire. Elle frôle même les 11% en Espagne, elle atteint les 22% en Estonie.
Ludovic de Villèle, on a l'impression que tout va bien.
Mais exactement.
Quand on écoute Olivier Véran, enfin, les chiffres sont là.
Que ce gouvernement semble être déconnecté, ça en est encore une illustration. Le pays est sous tension, mais pas du tout. L'unité, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le pays qui est sous tension, ce sont les Français qui sont tendus parce qu'ils s'inquiètent. Et il nous dit qu'il y a une unité nationale. Je ne suis pas certain. Vous avez rappelé que la rentrée va être difficile. Elle va être difficile dans les entreprises, elle va être difficile à l'Assemblée, puisqu'il n'y a qu'une majorité relative. Et c'est peut-être du coup un mal pour un bien, parce qu'on attend beaucoup du président de la République. Et à la fois, pardonnez-moi, en même temps, on lui dit qu'il en fait trop, mais peut-être que le pouvoir va un peu se décaler, se déplacer du côté de l'Assemblée nationale. Et c'est peut-être vers là qu'il faut attendre de nouvelles propositions plus égalitaires, plus ancrées dans la réalité. Donc je ne fais pas confiance à M. Macron, ce n'est pas la première fois, mais la réalité politique va faire que peut-être. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il se mêle moins de politique intérieure, parce qu'il sait que ça lui échappe et qu'il va davantage, non pas faire des voyages, mais à l'international, sur des sujets qui font partie d'ailleurs de ses prérogatives régaliennes.
Et garder cette posture internationale, en effet, en travaillant cette image de ce personnage, en effet. Naïma Mfadel, qu'est-ce que vous craignez le plus pour cette rentrée sociale?
Moi, je pense qu'il va y avoir le retour des gilets jaunes. Je suis même persuadée. Parce qu'on n'en avait pas fini, en fait, avec les gilets jaunes. Ça s'est rudement radicalisé, parce qu'il y a une OPA de l'extrême-gauche qui a mise sur ce mouvement qui était un mouvement populaire, un mouvement de travailleurs pauvres, en fait, des gens qui travaillaient, qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Donc moi, je pense que les gilets jaunes vont revenir, en espérant que, vraiment, j'espère de tout cœur que l'extrême-gauche ne va pas encore s'en mêler, parce que c'est elle qui a nuit à ce mouvement populaire.
Thomas Carpellini, ça vous semble probable?
C'est plus
le retour
que
des gilets jaunes.
Si on doit regarder un petit peu en arrière, l'inflation a causé des troubles majeurs dans de nombreux pays. Il suffit de relire Les raisins de la colère sur l'inflation en 1929 aux États-Unis. Si on doit aller du pire, c'est l'inflation qui a conduit le fascisme en Italie au pouvoir et le nazisme en Allemagne. Donc oui, ces questions financières, économiques peuvent avoir des enjeux extrêmes sur la politique d'un pays. Après, est-ce qu'on peut comparer la situation de la France en 2022 à celle de l'Allemagne ou de l'Italie en 1930? Non, absolument pas, ça reste deux choses différentes. Mais ça peut dire que oui, l'inflation peut causer des troubles sociaux, c'est-à-dire pas vraiment un trouble dans la population, un trouble du tissu social, du tissu de des employés, oui, qui peuvent avoir de graves conséquences. Et juste, et je vous laisse la parole
là-dessus, je vous en prie.
C'est qu'on remarque toujours qu'Emmanuel Macron et son gouvernement, notamment là Olivier Véran avec une langue de bois quand même à toute épreuve, c'est qu'il nous tient le même discours que pendant les gilets jaunes. Je vous ai écouté, je vous ai compris, mais je garde le cap. Alors, continue à parler, parole, parole, comme chantait Dalida. Mais moi, je me suis tracé ma ligne, je fonce dedans et finalement, qui m'aime me suivent. Et ceux qui ne m'aimaient pas, ben, c'est pas grave, je ne vous regarde pas. Et là, finalement, on se rend compte que déjà, dans son premier mandat, ça a été extrêmement compliqué. Les gilets jaunes ont été un moment quand même extrêmement violent, que ce soit symboliquement ou politiquement. Et là, oui, en effet, avec cette inflation galopante, avec ce chômage galopant, avec ces problèmes de dette et d'insécurité galopants, tout est réuni dans le mixeur pour faire une sorte de cocktail explosif qui risque d'exploser non pas à la tête du président, ça c'est un débat politicien, mais à l'ensemble de la société, car elle risque d'être plus fracturée que jamais.
Non, mais rappelez-vous, les gilets jaunes, il y avait le premier temps et le deuxième temps.
C'est vrai.
Le premier temps, c'était un mouvement populaire, c'était le mouvement des ronds-points, c'était très bon enfant, c'était même, j'allais dire, c'était extrêmement difficile parce qu'ils ont souvent été invités, on les a moqués, certains ministres les ont moqués. Et après, il y a eu le deuxième temps, ils se sont radicalisés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été entendus. Et là, ils vont être certainement rejoints par les classes moyennes qui ont voté Emmanuel Macron. C'est
donc,
ça qui va être intéressant. Ouais.
Il peut y avoir donc une amplification
malheureusement,
du mouvement des gilets jaunes.
L'été a été chaud sur le plan climatique la rentrée scolaire va être bouillonnante ou brûlante sur le plan social. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez très justement, M. Macron garde le cap. L'inconvénient, c'est, et là, ça va être un propos un peu facile, pardonnez-moi, c'est qu'avant, les phares étaient allumés, on pouvait critiquer, on savait. Là, les phares sont éteints et on va dans le noir parce qu'encore une fois, on ne sait pas quel est ce cap. C'est faites-moi confiance. Restons unis parce que l'heure est grave. Et puis c'est tout. Voilà, non pas taisez-vous. Mais on ne sait pas où il va. Et donc c'est d'autant plus inquiétant parce qu'on sait que les temps vont être difficiles. Il nous le dit, nous le savons, mais on ne sait pas où on va. Et on attend non pas une parole présidentielle, mais on attend des actes.
Allez-y.
Et ce qui risque même d'être un petit peu différent de si un mouvement similaire aux Gilets jaunes devait apparaître, c'est qu'il va y avoir des relais maintenant. 89 députés du RN. Plus d'une centaine de la NUPES, vous pouvez être certain que tous ces députés vont se ruer sur cette parole comme la misère sur le bas clergé breton. Ça va leur permettre de servir de porte-étendard. Et dès lors, l'Assemblée nationale, ça va être là que va jouer la politique. Car je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'Emmanuel Macron a conscience qu'il n'a plus toutes les cartes en main, que l'époque où il pouvait faire tapis car il avait un carré d'as est révolue, qu'aujourd'hui, il a d'autres joueurs en face de lui. On n'est même plus sur un billard à 3 bandes, mais sur un nombre incalculable de bandes. Il n'a plus toutes les variables d'ajustement à sa disposition et qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut devenir ce bouillon démocratique qui, d'une certaine manière, on attendait tous.
Avec un pays qui manque de tout pour cette rentrée, on le voit là encore aujourd'hui, c'était des places dans les crèches. C'est un sujet récurrent, mais il manque 8000 chauffeurs de bus scolaires, 4000 enseignants également pour la rentrée, c'est véritablement problématique. Et d'ailleurs, en réponse aux questions du magazine Challenge, Emmanuel Macron s'exprime sur les professeurs. Et là aussi, il y a un contraste. Nous rêvons pour notre jeunesse de professeurs plus épanouis, mieux valorisés, plus libres de leurs moyens pédagogiques, mais aussi de suivi plus personnalisé, de langue mieux enseignée. Mais le problème, c'est que le métier, Naïma M. Fadel, ne convient plus, en tout cas, il n'y a plus de vocation pour le métier d'enseignant aujourd'hui.
C'est un métier, rappelez-vous, enfin, si je peux me permettre, c'est un métier qui faisait rêver tous les jeunes enfants et il nous faisait rêver quand on était enfant. C'était un métier où il y avait un statut social, et il y avait un respect. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut voir les conditions de travail des enseignants. C'est très difficile. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas une vision sur ce corps d'enseignants et que malheureusement, à force d'aller de réforme en réforme, bah, finalement, on a tué ce métier.
Parce que pas suffisamment bien payé, parce que parfois, on envoie un peu des jeunes professeurs comme de la chair à canon dans des endroits compliqués quand on a assez peu d'expérience, ou alors on remplace des professeurs qui sont mal formés, puisque pour enseigner, il faut être titulaire du CAPES, et il y a beaucoup de professeurs en remplacement, des enseignants contractuels qui sont sans doute moins compétents. Ça, c'est inquiétant pour enfants.
Il y a deux choses. D'abord, il y a un problème conjoncturel et un problème structurel. Manifestement, le problème des professeurs, c'est celui dans d'autres professions. Chauffeurs de bus, les restaurateurs. On n'en parle pas aujourd'hui, mais on en a parlé cet été. Le monde médical, le monde pénitentiaire, le monde de la justice. Donc, on pourrait développer le manque de moyens en personnel et en matériel, mais en personnel de l'État. Ça, c'est un vrai problème. Deuxièmement, c'est un problème crucial, l'enseignement, puisque c'est d'un des piliers de la République. C'est toute notre jeunesse. On peut toujours demander à aller faire risette à la jeunesse algérienne. C'est ici qu'il faut s'en occuper. Et pour en terminer, M. Macron qui veut rêver, mais on ne lui demande pas de rêver. Nous ne rêvons pas. Nous, on lui demande de marcher avec ses pieds et de regarder où vont ses pieds. Et alors, parce que ce propos qu'il a tenu, on pourrait tous le tenir. Ça ne mène à rien. On ne lui demande pas de rêver. On lui demande de nous proposer des solutions crédible pour avancer et non pas pour avoir la tête dans les nuages.
Alors, solution crédible, justement, Emmanuel Macron, qui avant de partir en Algérie est à la Sorbonne ce matin et qui vient d'annoncer qu'aucun enseignant, voilà, on tombe en plein dans le cœur de notre sujet, ne commencera sa carrière au-dessous de 2000 euros net. Est-ce que c'est un effort considérable qui peut éventuellement permettre à de jeunes étudiants de devenir professeurs?
Alors, première chose, un peu, c'est toujours mieux que rien. Après, est-ce que 2000 euros net pour commencer, ça reste des gens à bac plus 5? Moi, vous savez, dans l'université que j'ai faite, où on peut prendre des cas, par exemple, à Sciences Po, là où dans le privé, on commence à des salaires à 3-4 000, vous allez dans l'enseignement ou dans la fonction publique, vous commencez entre 1 500 et 2 000 euros. Le CAPES, ça reste un concours qui est difficile à avoir. Donc oui, il faut davantage les payer. Est-ce que 2 000 euros, ça va suffire? Non, il suffit de regarder combien sont payés leurs homologues en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis. Ce sont des salaires, par exemple, en Allemagne, un professeur d'une université ou un professeur du lycée, c'est un écart de 1 pour 6. Un professeur d'université en Allemagne gagne 6 fois plus qu'un professeur des universités en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, ça m'insupporte, ces propos d'Emmanuel Macron. Que faisait-il pendant 5 ans? Il n'est pas arrivé ex nihilo. Il a fait un premier mandat. Là, je viens de voir qu'il avait dit à la Sorbonne que l'école n'était pas à la hauteur des enjeux. Mais où était-il pendant 5 ans? Il était aux manettes, il a choisi des ministres, il a approuvé des politiques, il a approuvé la mise en place de plans, de réformes. Et même si tout cela ne suffit pas, mais qu'a-t-il fait pendant 5 ans? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, j'ai en écho à ce que vous avez dit, c'est que vous avez raison. Actuellement, la France est traversée par une crise, non pas du monde médical ou de l'enseignement, mais une crise de la vocation. Vous savez, souvent, on a fait cette différence entre une profession et une vocation. Et là où, pendant des années, les gens acceptaient de gagner un peu moins, d'avoir des conditions un peu plus difficiles, mais pour faire un job qui leur plaisait. Vous avez, comme vous l'aviez très bien dit, avoir un véritable rôle dans la cité. Et bien aujourd'hui, tous ces emplois de prof de vocation, comme infirmier, comme enseignant, d'ailleurs on ne le dit pas assez, mais il n'y a pas simplement les professeurs de français ou d'allemand qui sont en manque, mais également les instituteurs et les institutrices qui, eux, ne sont même pas confrontés peut-être à une violence qu'il peut y avoir dans les collèges et des lycées. On se rend compte que cette crise des vocations touche toutes les strates de la société.
Alors justement, en résonance à ce que vous venez de dire, Emmanuel Macron à la Sorbonne, ce matin, au sujet de la valorisation des enseignants, écoutez.
Nos enseignants, je le disais, ont le sentiment d'être insuffisamment reconnus. Je crois que ça n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, pas de vous ni de moi, mais dans la société. C'est un sujet, si je devais dire les choses de manière crue, de sens et de reconnaissance et de rémunération. C'est pourquoi nous avons, sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduit, commencé une revalorisation générale de la rémunération, il y a 2 ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2000 euros net, mais par un investissement massif de la nation que nous assumons, que le ministre va continuer de poursuivre, et qui permettra environ 10% d'augmentation de la rémunération par rapport au statu quo en T pour nos enseignants, et là de manière totalement inconditionnelle.
Ludovic de Villel, non, c'est suffisant?
On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, c'est pas une revalorisation, ça va encore nous goûter de l'argent. Tant mieux, parce que c'est pour une bonne cause, ce sont nos petites têtes blondes et celles qui sont un peu plus âgées à l'université. Mais il y a un autre problème aussi, le sens donné à l'enseignement était totalement perdu. Aujourd'hui, un enseignant qui donne une punition n'est pas soutenu par sa hiérarchie. Je ne vais pas non plus évoquer ce drame avec le professeur Samuel Paty, mais ça a affecté énormément, parce qu'on ne peut pas enseigner librement en France, il faut le dire. Donc il y a une crise des vocations, pas uniquement parce que le porte-monnaie n'est pas assez chargé, c'est un point, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est une réforme globale, et depuis mai 68, l'éducation nationale est partie à volo et on en paye les pots aujourd'hui. Donc on ne va pas s'en sortir avec 2000 euros et on ne va pas demain avoir un enseignant par classe, parce qu'on aura valorisé. Il faut, pour vouloir exercer, pour avoir une vocation, il faut être animé. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un jeune, bien qu'il ait envie, soit animé par cela, parce qu'on ne lui a pas laissé entendre que c'était un magnifique, l'un des plus beaux métiers que l'on puisse exercer.
Pour attirer de nouveaux professeurs, donc Naïma Mfadel, le salaire ne suffit pas, c'est le décorum pour susciter des vocations, c'est l'atmosphère, l'ambiance, l'envie de faire ce métier, métier passion.
Exactement, puisque dans le passé, c'était ça, c'était une vocation, c'était un plaisir, c'était un bonheur.
Et la rémunération n'était pas plus conséquente.
Non, c'était moindre. C'est pas aujourd'hui, tant mieux si on augmente leur salaire, mais ce n'est pas ça. C'est aujourd'hui les conditions. Et c'est vrai qu'on peut remonter à la réforme qui a été mise en place par Najat Vallaud-Belkacem. C'est là où ça a commencé, je veux dire, le malheur des enseignants, puisqu'on les a décrédibilisés, ils n'ont plus ce rôle important au sein de leur classe, au sein de l'école, de l'établissement scolaire, et aussi la relation avec les parents. On les a quand même délégitimés dans leur rôle, leur place, etc. Et puis ensuite, les conditions. Vous avez vu un peu les conditions dans lesquelles ils enseignent, notamment dans les quartiers populaires. C'est des conditions extrêmement difficiles. Ils ne peuvent pas remplir leur mission d'une manière, je veux dire, libre. Ils doivent s'auto-censurer. Moi, j'ai travaillé dans les quartiers. Je connais bien, j'ai travaillé avec les enseignants. Je peux vous dire que c'est des souffrances. Il faut vraiment vouloir y aller. Et c'est ça toute la difficulté. Et si on ne remet pas tout ça à plat, en leur redonnant leur rôle, en les légitimant, en les mettant... Et surtout par rapport à leur hiérarchie, parce que c'est ça le problème. Le pas de vague, c'est ça aussi. C'est ce qui s'est passé pour Samuel Paty, c'était le pas de vague. C'est ça. Alors, heureusement, c'est pas tous les jours qu'il y a ce problème-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut remettre vraiment au centre de toute cette organisation la place et le rôle de l'enseignant et qu'on lui donne tout le respect auquel on lui doit.
Ouais. 2000 euros, est-ce que c'est suffisant pour que ce métier redevienne un sacerdoce pour ceux qui l'embrassent?
Non, parce que comme vous l'avez très bien rappelé, c'est pas simplement une question financière, mais également une question d'image. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que sur tout sur lequel on a jeté l'alali et l'opprobre, on les a fait passer sur les fourches codines, l'autorité du savoir, l'autorité du maître, l'enseignement du latin, c'était rétrograde, c'était réactionnaire. Aujourd'hui, ce sont toutes les clés de lecture qui sont appliquées dans les plus grandes écoles privées, pour reprendre votre expression, pour jeunes têtes blondes. C'est-à-dire que vous allez à l'école alsacienne, vous allez à Louis-le-Grand, vous allez à l'école Jeannine Manuel, c'est latin, autorité du savoir, tout ça. Et aujourd'hui, ça m'énerve de voir des gens, des pédagogues, qui veulent faire des expériences, qui veulent créer une sorte de docteur Frankenstein du monde pédagogique et qui n'y envoient pas leurs gamins.
Sous prétexte d'égalité des chances, on tire vers le bas. Alors
merci.
Au contraire, il faut avoir partout la même exigence.
Merci à tous les trois. C'est terminé pour 90 minutes matin, mais l'actualité continue sur CNews. Midi News avec Olivier de Kerenfleck dans quelques instants. À très vite sur ce plateau.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.